Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec TK Elevator, Cité Verte Europe et bien ici sur Radio Immo.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Immo. Nos équipes couvrent depuis hier le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, en direct du Palais des Congrès à Porte-Maillot, un lieu d'échange, vous le savez, et de débat, mais aussi un grand rendez-vous d'affaires entre professionnels. Et nous allons maintenant, avec mes invités, aborder une thématique importante pour le secteur, qui est l'évolution de la demande sur le marché de l'immobilier à l'heure du digital et des économies d'énergie. Et pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'inviter Philippe Lebouris. Bonjour Philippe.
Bonjour Kenya.
Vous êtes directeur commercial Service et modernisation pour TK Elevator France. Merci d'être avec nous. À vos côtés, nous avons Samir Abbès. Bonjour Samir.
Bonjour.
Responsable adjoint, responsable, pardon, département projet immobilier, Caisse d'épargne, Île-de-France. Merci d'être avec nous. Et Alexandre Fitucci qui va aussi participer au débat. Bonjour. CEO de Beanstock. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Bah, super.
Bon, est-ce que c'est important pour vous le CIMI ? J'imagine que oui, pour votre activité, pour vos activités respectives, Philippe.
Oui. Oui, le CIMI est un incontournable de notre activité, aussi bien pour les activités de neuf, pour tous nos partenaires promoteurs, clients, développeurs et investisseurs, et puis bien sûr aussi pour nos activités de maintenance et de services auprès notamment d'ensemble de property managers, facility managers qu'on retrouve ici au travers de leur stand.
Alors avant d'aborder cette grande thématique qui nous concerne tous, on va peut-être présenter vos entités respectives. On va commencer par vous Philippe Lebouris. TK Elevator, grand changement depuis déjà quelques années, grande évolution on peut le dire, même changement d'image, changement de logo même, c'est ça ?
Tout.
C'est un renouvellement chez vous.
Tout à fait. Là on est depuis presque deux ans maintenant dans la transformation.
Oui.
Vous l'avez parfaitement dit Kenza, à la fois bien sûr de la gouvernance de l'entreprise puisque nous sommes passés d'un actionnaire historique allemand, ThyssenKrupp, à de nouveaux actionnaires fonds d'investissement anglo-saxons,
oui.
Avec une nouvelle image, un nouveau slogan, un nouveau nom, TKE, à la place de ThyssenKrupp, et TKE pour Elevator, voilà, avec évidemment un nouveau logo, de nouvelles couleurs, un nouveau slogan. Voilà, on transforme, et on transforme aussi en France, voilà, notre entreprise pour aller voilà, vers plus de services clients, plus d'innovation, voilà, d'économie d'énergie, on va en parler.
Oui, on va en parler, effectivement. Samir Abbès, vous nous parlez de votre fonction au sein de la Caisse d'épargne Île-de-France.
Donc, Samir Abbès, responsable adjoint du département projet immobilier.
Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Samir, merci.
Donc,
super.
Bah, la Caisse d'épargne Île-de-France, ça fait partie du groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'épargne.
Oui.
Donc, comme Philippe, on est dans la transformation, que ce soit le digital, que ce soit l'économie d'énergie.
Oui.
Donc, moi, je m'occupe plus des projets immobiliers, donc tout ce qui est travaux de restructuration, de rénovation, de rafraîchissement, et des travaux neufs aussi. Donc, avec la crise sanitaire, il y a eu un impact de réflexion sur tout ce qu'on peut apporter de meilleur, pour, que ce soit pour les collaborateurs et pour les clients aussi, parce qu'on a aussi des clients. Et cette relation, il faudra que tout le monde parte dans le même sens. Quoi. Donc, quand on parle de transformation, c'est pas que la transformation de l'entreprise, c'est la transformation de tout le monde.
Bien sûr, humaine aussi, humaine, culturelle,
c'est ça,
on
c'est
est
ça,
bien
c'est
d'accord. Ça. On va en parler dans quelques instants avec vous. Alexandre Fitucci, Beanstock,
oui.
La genèse, vous nous en parlez un petit peu.
Alors Beanstock, déjà pour remettre dans le contexte, c'est une société qu'on a créée il y a un an et demi, donc juste à la sortie du confinement, du premier confinement, le vrai. Et on a comme fonction, donc notre objectif, c'est de démocratiser l'investissement locatif. Donc on est une plateforme comme Sologer, sauf que vous ne voyez que des biens d'investissement locatif. Tous les biens que vous voyez ont été soigneusement sélectionnés et vous allez être accompagné sur tout le parcours d'investissement. Donc ça, c'est Beanstock. Ça a vraiment commencé avec mon expérience personnelle. Moi, à titre personnel, j'ai pas mal investi et je me suis retrouvé confronté à toutes les problématiques qui peuvent être imaginables en termes de gestion locative, maintenant de la loi climat et toutes ces
encore plus aujourd'hui avec ces questions réglementaires qui arrivent et qui vont nous obliger à réfléchir différemment.
Exactement. Moi, quand je suis arrivé sur le marché, il n'y avait pas encore d'encadrement des loyers, il n'y avait pas de loi climat, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore là et qui sont pour moi des évolutions très positives.
Oui.
Et l'objectif aujourd'hui, c'est de démocratiser l'investissement locatif tout en mettant le cadre réglementaire au cœur de l'enjeu.
Philippe Lebouris, pourquoi avoir fait le choix de cette thématique pour cette table ronde TKE ?
Alors, effectivement, très bonne question. C'est une des données clés pour l'ensemble de nos partenaires et clients. On voit bien que c'est une tendance du moment, que les outils, pour nous, industriels, mais aussi l'offre commerciale qui va derrière, doit absolument intégrer ces deux composantes que sont le digital dans sa grande définition, avec tout ce qu'on évoque en termes d'objets connectés ou de services connectés.
Oui.
Et puis, bien sûr, le souci de l'empreinte carbone au travers de nos produits, essentiellement, donc de leur conception à leur livraison et à leur maintenance raisonnée, intégrant de l'économie circulaire. Voilà, c'est tout cela. On voit bien que ce sont des composantes clés pour nos clients.
Alors justement, entre écologie, nouvelle réglementation, comme vous le disiez, digitalisation et crise sanitaire, on peut le dire, l'immobilier est en pleine évolution. Justement, à quel type de mutations vont devoir faire face les professionnels aujourd'hui? Qui veut répondre à cette question? Alexandre, peut-être?
Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je suis encore plus, je pense, plus intéressant sur l'angle des investisseurs, des particuliers plus que des professionnels. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit un monde de l'immobilier, le réseau d'agents qu'on a en France qui est très riche, qui est un réseau d'agents qui lui-même n'est pas encore complètement conscient de ce qui est en train de se passer.
Ah oui, vraiment?
C'est un milieu, l'immobilier fondamentalement, c'est un milieu où tout le monde parle toute la journée. Il y a plein d'idées, il y a des milliards d'articles qui disent une chose et son contraire. Donc c'est très difficile de s'y retrouver. Chacun va se faire sa propre expérience de terrain. Et le terrain, c'est souvent une expérience, ça ne suffit pas à tirer des règles. Et donc, on a un monde qui est très peu transparent, finalement, parce qu'on a du mal à trouver des règles générales qui concernent tout le monde. Et c'est pour ça qu'on aime quand il y a des réglementations qui viennent clarifier un peu les sujets. Et je prends l'exemple de la loi climat, qui, pour moi, est une des plus belles évolutions récentes qu'il y a pu y avoir.
C'est pas le cas, c'est pas l'avis de tout le monde, a priori, dans le métier.
Bah, évidemment qu'ils s'en plaignent. Il y a du mouvement, il y a des choses à comprendre, des choses à connaître.
Pour vous, c'est plutôt une belle révolution, en tout cas. Bah, c'est une bonne nouvelle
pour le secteur. Moi, personnellement, je pense qu'une des problématiques majeures de notre époque, c'est qu'on a beaucoup de mal à réconcilier les objectifs économiques et les objectifs climatiques. Je pense que c'est un des gros enjeux de notre époque. Et que pour une fois, on arrive à vous montrer que, de toute façon, si vous ne les faites pas, les efforts nécessaires pour la planète, vous allez y perdre de l'argent.
Et oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut investir aujourd'hui pour demain.
C'est exactement ça.
Et beaucoup d'entreprises ne le comprennent pas. Samir, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a quand même une certaine pédagogie à mettre en place. Ouais. Parce que quand nous, moi je parle pour la Caisse d'épargne Île-de-France, il y a ce qu'on appelle le RSE, donc responsabilité sociale de l'entreprise.
Oui.
Je pense que ça, c'est une façon, une forme aussi d'investir, mais intelligemment.
Bien sûr.
Quand on dit investir, OK. Il y a un business derrière, mais la décarbonation, ce n'est pas que pour l'entreprise. Même le particulier lambda, c'est quoi l'économie d'énergie, qu'est-ce qu'on va mettre en place, et ainsi de suite. Il y a une certaine éducation. Maintenant, ça devient réglementaire parce qu'il fallait imposer les choses aussi. Sinon, tout le monde est attentif. Si on a fait évoluer l'RT 2012, quand je parle un peu techniquement, on l'a fait évoluer à la RE 2020. Ça veut dire qu'on est quand même sur le zéro émission de carbone. Et ça, il faut quand même prendre conscience que, si je parle aussi de décret tertiaire, transition énergétique, on va quand même pousser à tout le monde, que ce soit les investisseurs locatifs, ceux qui vont investir aussi dans la construction. On va quand même travailler intelligemment, c'est d'avoir des bâtiments qui seront intelligents, qui vont consommer moins, déjà pour un meilleur confort pour les utilisateurs,
bien sûr.
Et ceux qui vont aussi habiter, c'est-à-dire payer des charges. Tout le monde sait payer des charges. Et si on diminue ça, cette partie-là, c'est qu'on est responsable de ce qu'on est en train de faire. C'est que demain, ce qu'on va laisser à la planète, pour la nouvelle génération, c'est qu'on va laisser quelque chose dans un principe, je dirais, sociétal et intelligent.
Donc ça veut dire qu'on n'en est plus à faire des actions business, mais surtout des actions responsables aujourd'hui. On est d'accord, hein, Philippe?
Moi, j'y crois pas à ça.
Ah, c'est vrai?
Non, j'y crois pas.
Ah, c'est intéressant.
Moi, j'y crois pas. C'est toute mon idée, c'est que je pense qu'on ne réglera pas la question climatique avec des bonnes intentions. On va avoir besoin de contraintes. J'y suis. Regardez.
Vous voulez dire qu'il faut contraindre les Français ou les entreprises françaises?
Tout le monde. Mais à ma titre personnel, demain, je vous dis. Vous voyez un peu ce qui s'était passé avec le prix de l'essence en 2018. Dès qu'on s'est dit, il faut que les gens arrêtent de prendre leur voiture, on va augmenter le prix de l'essence. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est la même chose. Moi, très franchement, je suis très sensible, comme beaucoup de gens, à la problématique climatique. Mais quand on me demande de faire un don, il y a peu de chances qu'il atteigne le montant des travaux que je vais être obligé de faire dans mes apparts pour les remettre aux normes.
Surtout que quand vous les avez achetés,
ils n'étaient pas aux normes. Donc là, les remettre aux normes, ça me fait faire des dépenses que j'aurais jamais j'aurais jamais imaginé dépenser autant pour un don, quoi.
Philippe, vous êtes d'accord?
Mais
vous savez que le but d'une table ronde, c'est de pas forcément être toujours d'accord.
C'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a on peut faire les deux. Enfin, la contrainte, oui.
Sensibilisation et
exactement.
Contrainte.
Sensibilisation et contrainte ne sont pas forcément antinomiques. Nous, dans notre environnement industriel et serviciel, on voit bien qu'on a des contraintes légales, on a des contraintes de normes de construction, un environnement normatif très riche qui va d'ailleurs croissant, hein, aussi bien sur les produits que aussi en matière de services rendus à l'occupant, à l'usager. Donc on voit bien qu'il y a une part de contrainte, mais il y a aussi une part de responsabilité de l'entreprise que nous sommes, de l'industriel que nous sommes, à concevoir et à mettre sur le marché des produits qui sont plus responsables socialement dans toutes ces composantes, à la fois énergétique, mais également humaine, hein, dans le sens du service rendu, in fine. C'est pour ça qu'on parle de bâtiments, par exemple HQE, en termes de label, etc., auxquels on participe via nos produits. J'ai envie de dire que demain, on va même jusqu'au label HQH, hein, haute qualité humaine. C'est presque cela aussi le développement dans lequel on tend.
Alors, moi, je comprends, Alexandre.
Le point de vue ?
Le point de vue, je comprends, parce qu'il y a... On en parle quand même depuis le protocole de Kyoto, depuis 1997. Ça fait quand même 24 ans. Il y a quand même une certaine inertie. Ça veut dire que ceux qui veulent faire les choses, on en parle, mais il n'y a pas d'action réelle.
Exactement.
Et ça, quand on en parle mondialement, OK, c'est un impact politique, c'est un impact de responsabilité, ainsi de suite. Mais il n'y a pas eu des actions fortes au niveau gouvernemental. C'est-à-dire quand je parle de la France... La France, elle a imposé, ça veut dire qu'on est rentré, parce qu'il y a eu le Grenelle 1, le Grenelle 2, quand il y a eu la loi Borloo, on a dit on va activer, on va actionner les choses. C'est quand, depuis 2012, il se passe des choses, mais c'est petit à petit. Ça veut dire qu'on avance pas par pas, par pas, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on impose, c'est un cadre réglementaire, que ce soit pour le locatif, pour les bureaux, pour le tertiaire, on a imposé des règles. Ça veut dire que ce qu'on appelle le DPE, on ne peut pas louer sans ce diagnostic de performance énergétique.
Oui.
Si plus votre DPE est dans le négatif, je dirais G, plus vous avez quand même du mal à le louer. C'est ça. Donc on va quand même inciter.
Malheureusement, pas forcément.
Ouais, mais on va inciter le. Après, je ne vais pas parler de la spéculation, de l'inflation par rapport au locatif parisienne, mais on a quand même des outils pour forcer les investisseurs à être responsables. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose, si on fait, ça veut dire qu'on valorise déjà le bien. En même temps, c'est pas une passoire énergétique. Si tout le monde s'amuse à, je dirais, juste l'apport business-argent, il y a un moment, il faut quand même savoir aussi faire des concessions et être responsable. Ça veut dire qu'on n'en parle pas que de parler dans le vide. Je vois dans le tertiaire, on a imposé un cadencement. Sur 2030, 2040, 2050 avec des économies d'énergie, ça veut dire qu'il y aura un plan d'action que toutes les grandes entreprises, même les PME, seront obligées quand même de mettre un plan d'action financier pour qu'ils se retrouvent quand même à la finale. On est responsable. Ça veut dire que déjà juste nous au niveau du groupe, c'est une politique à l'échelle du groupe, on ne parle pas d'entité Île-de-France ou quoi que ce soit, c'est une action mais vraiment responsable. Ça veut dire qu'il faut quand même montrer l'exemple. On va mettre les moyens, il faut sensibiliser à ce niveau-là. Et à partir de là, si tout le monde est d'accord sur ce mouvement, je pense que quand on va investir sur de l'immobilier, on va quand même réfléchir 20 fois. On dit OK, l'argent c'est bien, on peut payer, mais est-ce qu'il y a décarbonation, quelles sont les charges, ainsi de suite.
Je pense à un exemple qui concerne la caisse d'épargne que je connais bien, parce que c'est une banque avec laquelle on travaille beaucoup, nous, et qu'on aime beaucoup. Il y a beaucoup d'intelligence dans cette banque, dans l'approche qu'ils ont.
C'est rare.
Il faut pas. Je pense que les banques.
On a un beau réseau en France quand même. On peut être fier de notre système bancaire.
C'est mieux des banques solides.
Il y a Pierre, bien sûr.
Voilà, tout à fait.
Tout ça est gagné.
Exactement. Et en fait, moi, je me souviens avoir eu pas mal de discussions avec des grands acteurs de la caisse d'épargne sur le fait qu'ils essayaient de nous faire croire pendant un moment que le DPE allait servir de critère à l'obtention ou non d'un crédit immobilier. Non.
Non.
Et c'était censé être la règle. En pratique, ça ne s'appliquait pas.
Et, oui.
Et ça, je l'ai longtemps regretté. Et je pense qu'il va falloir que tout le monde se fasse une raison, dans le sens où je pense qu'on ne peut pas attendre d'une entreprise qu'elle perde du business. Il y a des exigences de rentabilité énormes malgré tout. On a beaucoup de salaires à payer, on a beaucoup de choses derrière.
Oui.
C'est normal qu'une entreprise comme la Caisse d'Épargne privilégie le business tant qu'il n'y a pas de contraintes. Si demain vous allez voir la Caisse d'Épargne en lui expliquant que si les DPE et G et qu'elle finance un crédit immobilier en étant G, alors il y a une pénalité qui est à la clé, à ce moment-là, elle appliquera la règle. Mais tant que vous ne le faites pas, je considère que la contrainte est le seul moyen pour nous faire renoncer à certains objectifs business de court terme pour le long terme de la planète.
Donc ça veut dire qu'elle crée des opportunités pour les investisseurs ? C'est ce que vous êtes en train de dire ?
Moi, complètement, tout à fait. Alors ces contraintes, en plus de ça, il se trouve qu'elles sont des opportunités. Il y a des façons de régler ce problème. Mais je pense, en ce moment, nous, on est en train d'explorer l'idée d'étendre notre activité dans certains autres pays, et notamment, je pense, à l'Angleterre, dans lequel les exigences de DPE, c'est pas... Donc en France... Vous avez jusqu'en 2025, les biens notés G ne seront plus louables. En 2028, les biens notés F. Et en 2034, notés E.
Donc, vous voyez, donc ça veut dire qu'on met des contraintes. Ça veut dire que si on ne met pas ces contraintes-là,
exactement,
les investisseurs ne
le feront pas.
Mais
oui, ils le feront pas.
Donc on est obligé de mettre cette pression, de pénaliser. Et c'est ce que je voulais dire.
On est d'accord. Non, mais complètement. Mais j'allais dire juste qu'en Angleterre, à cause de Glasgow, ils ont voulu donner l'exemple. À cause de la COP qui a eu lieu dernièrement, ils sont passés à C dès aujourd'hui.
Donc ces lois contraignantes sont pour vous des opportunités formidables.
Il faut équilibrer, bien sûr. Oui. Et c'est ça que j'aime. De toute façon, on se rendra jamais assez compte de la chance qu'on a d'être en France, où il y a quand même un sens de la nuance. Demander du C alors que dans les trois. Typiquement à Paris, on a du mal à atteindre du E. C'est très difficile. Les façades ne sont pas assez épaisses. Il va falloir les refaire, sauf qu'on ne les refera pas de l'extérieur. Tout
mais
est
de l'intérieur.
Et de l'intérieur, il faut faire perdre du mètre carré qui vaut 12 000 euros. Donc, il y a plein de problématiques comme ça qui se posent. Et l'État a une approche qui, pour moi, est équilibrée. Maintenant, il va falloir toujours savoir où on met le seuil.
Vous, qu'est-ce que ça va créer en matière d'investissement locatif dans le cadre de votre secteur à vous et dans le cadre de votre métier, Alexandre ?
Je pense que ça...
C'est ça qui est intéressant, c'est de savoir comment quel genre de porte ça va vous ouvrir. J'imagine que ce n'est pas pareil pour les entreprises que pour...
Que pour les particuliers, tout à fait. Alors, je pense qu'in fine, on va tous se retrouver avec la même problématique. Quand on investit dans l'immobilier, on a un seul mot à l'esprit, c'est la rentabilité. Et il se trouve que la rentabilité, elle doit inclure maintenant, à partir d'aujourd'hui, elle doit inclure un certain niveau de travaux qui aujourd'hui n'existait pas. Vous engagez dans le projet, il va falloir rajouter ce petit effort sur les fenêtres.
Est-ce que tous les Français vont avoir les moyens, c'est ça, d'accéder
donc,
à ça ?
Justement, nous, la conséquence de ça, c'est qu'un bien qui n'est pas aux normes, très logiquement, il va falloir réduire le prix parce qu'il va falloir inclure indirectement les travaux que vous, en tant que propriétaire, n'avez pas voulu consentir. C'est ça la vision. Et d'ailleurs, finalement, le Covid a rendu un grand service à la ville de Paris, parce que en réduisant un peu cette tension à l'achat, parce qu'il faut le dire, c'est plus du tout le même marché qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, il fallait s'arracher.
Ça reste quand même toujours très cher.
Cher, oui, mais tendu, non. Et c'est quand même différent parce qu'avant, on pouvait tout vous imposer en tant qu'acheteur, notamment d'acheter une passoire énergétique et de consentir les efforts financiers. Là, aujourd'hui, on voit toute la journée des biens notés G. On dit aux vendeurs, OK, mais nous, on doit prévoir du coup 12 000 euros de travaux en plus. Ce sera 12 000 euros de moins sur le prix d'achat.
Et de votre côté, Philippe, en matière justement de stratégie d'entreprise, qu'est-ce que ces lois, on va dire, qui vont vous obliger à changer les choses, vont changer dans votre façon de travailler, dans votre stratégie globale business ?
Alors, je vais essayer de me projeter un petit peu au niveau de l'industriel, pas seulement sur ma fonction de directeur commercial service. Effectivement, on a conscience que les bâtiments de demain vont être bien sûr conceptualisés avec ces nouvelles contraintes. Et donc, nous, on participe par nos innovations, on participe à accompagner ce changement dans l'immobilier de demain, que ce soit résidentiel ou tertiaire, avec de l'innovation, c'est essentiellement par l'innovation, par l'innovation qu'on va essayer de réduire, effectivement, par exemple, l'empreinte carbone, c'est-à-dire travailler sur des matériaux, travailler sur des détails de tout simplement de moteurs, des entraînements qui permettent de réduire les consommations énergétiques, de travailler un maximum, par exemple, sur des fonctions stand-by quand ils ne sont pas utilisés, etc.
Donc l'ascenseur de demain, il sera comment ?
l'ascenseur de demain, il sera le plus possible connecté à l'usage qu'on en fait.
Oui.
Dans le sens où si on a besoin d'avoir un usage intense, il est capable de monter en charge. Si on n'en a pas besoin pendant X temps, il est capable de se mettre en veille, de réduire de lui-même sa consommation. Parce qu'il capte, il est en connexion avec les bâtiments et les usagers qui trafiquent.
Oui.
Et l'idée est de le rendre le plus flexible possible. Donc on travaille sur ces données-là pour concevoir et dès le début aussi un produit industriel maîtrisé dans son empreinte carbone dès le départ jusqu'à son usage et sa vie dans le bâtiment de demain.
Mais alors justement, qu'est-ce que la Covid a changé dans les usages ou l'évolution de ces usages, autant pour les particuliers que pour les professionnels? On va peut-être parler des particuliers de votre côté, Alexandre. Quel genre de choses a réellement changé la Covid?
Alors, moi, j'ai deux angles. Il y a eu deux impacts très forts. Le premier qui relève plus de l'aspect financier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont mis beaucoup d'argent de côté. Il y a beaucoup de gens qui se sont interrogés sur leur indépendance financière, qui ont vu à quel point dépendre d'un salaire, c'était problématique. Que finalement, qu'est-ce qui se passe si demain, ce virus, il se met à tuer des gens qui ont moins de 40 ans et que... de quoi demain est fait, on ne sait pas. Donc, il y a ce sujet qui est arrivé dans la vie des gens de... Bon, maintenant, il faut que je réfléchisse à mon avenir financier en dehors de mon salaire. Ça, c'est un
premier
sujet.
L'avenir fait peur, en fait. C'est ça, un peu.
Alors,
plus.
Au contraire, je pense que ça dépend de la philosophie qu'on a derrière. Mais je pense qu'il y a plein de mouvements différents qui ont émergé. Il y a notamment des gens qui se sont dit, en fait, la vie, elle peut être très courte.
Il faut mieux en profiter.
et travailler, aller tous les jours au bureau, aller tous les jours... donner cette fonction au travail de remplir le frigo, ça dénature un peu une des valeurs du travail. Le travail peut être très valorisant, mais dès lors qu'il occupe cette place de juste remplir mon frigo, ça crée des problèmes.
En gros, il n'y a pas que le travail dans la vie, quoi.
Exactement. Et au contraire, il faut voir le travail comme une opportunité, comme une autre, de gagner de l'argent, mais surtout de rencontrer du monde, d'échanger avec ses pairs. Et je pense que c'est plus intéressant de le voir comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxième point, il y a un point qui nous a beaucoup aidé avec le Covid. La Covid, c'est qu'on a beaucoup... Nous, on est très dans le digital. Donc, en fait, notre vision à la base, il y a deux ans, avant même le Covid, c'était on va vous faire acheter un appart sans bouger de votre canapé. Et en fait, c'était un peu
comme on
futuriste.
Comme on investit dans la bourse, en fait.
Exactement, c'était ça la vision. Sauf que les gens, ils avaient envie de visiter l'appart, ils avaient envie d'aller chez le notaire, ils avaient envie de tout ça. Maintenant, bizarrement, signer un compromis sans aller chez le notaire, ça ne dérange
visio,
pas.
En visio,
visiter un appartement en visio, ça ne dérange pas. Se positionner sur un appart en faisant une offre sans l'avoir vu, ça ne dérange pas. Nous, on a 70% de nos acheteurs qui ne visitent pas les biens qu'ils achètent.
Et oui, c'est incroyable. Imaginez, ce changement.
Et ça, on n'aurait jamais espéré pré-Covid. Jamais.
Donc, c'est possible aujourd'hui d'acheter un appartement sans se déplacer pour aller le voir.
Quand c'est de l'investissement locatif, c'est même plus logique de le voir comme ça.
Et oui, c'est vrai. Samir, de votre côté, au sein de votre entreprise que vous représentez, justement, quels sont les changements d'usage ou quelle stratégie professionnelle vous avez mis en place aujourd'hui pour demain?
Je pense que déjà la Covid a tout changé, tout bouleversé au niveau du fonctionnement, au niveau du travail, au niveau de travail déjà à distance, parce que le distanciel a fait que on est obligé de travailler en distanciel pendant quand même 2 mois.
Oui.
2 mois, ça paraît court pour tout le monde, mais ça paraît long aussi pour tout le monde. C'est assez lent. Donc moi, en tant que manager, j'ai pu m'adapter, parce que le présentiel, je disais, tant que le travail est fait, il n'y a pas de souci. Donc ça a permis à tout le monde, à tous les salariés, même à l'employeur, tant que le travail est fait, je pense que la présence, n'est pas indispensable dans son fonctionnement. Elle est indispensable.
Moi, je suis tout à fait en désaccord avec ça.
Donc elle est
ça dépend des patrons, c'est vrai.
Non, bien sûr.
J'ai pas fini, Alexandre.
Je plaisante.
Donc, en distanciel, ça veut dire qu'on pouvait faire le travail. On travaille en distanciel. Je pense que le présentiel, c'est plus le social. Ça veut dire que le relationnel qu'on va mettre en place.
Exactement.
Je pense que l'optique aussi, avec la Covid, on est devenu plus humain, je dirais, parce que ça a humanisé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a quand même des services... Des personnes qui ont quand même été au charbon, qui ont travaillé. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais à la maison. Et ceux qui travaillaient dans le ménage chez nous, ceux qui travaillaient dans les hôpitaux, ceux qui faisaient du FM,
la maintenance, ainsi de suite.
Mais tous ces gens-là, ils étaient quand même en présentiel, ils n'avaient pas le choix.
Sur le terrain.
Donc sur le terrain. Donc il fallait être solidaire avec ces gens-là. Et ça, c'était très important. Donc notre vision, elle a quand même changé, mais je dirais positivement. Parce qu'on a quand même pu... On parlait beaucoup de travail à distance, télétravail, ainsi de suite. Ça s'est généralisé. Sans qu'on... On en parle avec les syndicats ou quoi que ce soit, ça s'est généralisé automatiquement, sans qu'on. Il n'y a pas eu, vous allez en télétravail, vous présentiel, ainsi de suite. C'est tout le monde, on fait du télétravail, on s'est adapté, on s'adapte. Les collègues soient là, tant mieux. Bon, ça nous permet d'aller boire un café ensemble, discuter même en dehors du travail. Et quand on est en distanciel, c'est la même, je pense, créer plus de liens, je dirais, professionnellement que ce qui se faisait avant.
Et puis ça a surtout changé la donne en matière d'investissement locatif, ou même pour sa résidence principale. On n'a plus envie d'avoir des petits appartements comme on avait avant la Covid, j'imagine, hein. Alexandre.
Alors, moi, personnellement, je ne peux pas répondre à ça. Je ne regarde que des appartements dans lesquels on va mettre des locataires. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la tension locative...
Oui, on les met dans des petits studios, on s'en fout.
C'est pas qu'on s'en fout. Déjà qu'ils aient un logement, c'est bien. Quand on voit le nombre de candidats qu'on a par appartement... Justement, ça fait partie des sujets que nous, on traite chez Binstock. Et un de nos grands sujets, c'est le logement décent.
D'ailleurs,
un point intéressant, c'est que finalement, ce fameux critère de DPE, il est bien... perçu dans la loi comme un critère de décence. C'est-à-dire qu'à partir de 2025, votre logement ne sera plus décent. Mmh. Et moi, je trouve que ce mot, il est très fort. C'est-à-dire, psychologiquement, se dire que je loue un bien qui est indécent, je trouve que c'est très fort. C'est très culpabilisant et j'aime bien cette notion, finalement. Je trouve que ça montre ce qu'on a en train de faire.
Ça remet les choses en place.
Avoir un locataire qui paye pour une micro-surface, qui paye un loyer très élevé et en plus, qui va payer une note d'électricité très élevée dans un appart dans lequel il a très froid, il y a un moment, il y a de l'indécence.
Donc ça fait quand même partie d'une forme d'éducation quand même. On responsabilise les gens. Je pense qu'y aller doucement comme ça, c'est quand même mieux. Sinon, ça va être n'importe quoi. C'est pas pour ça que les prix parisiens ont baissé. Étant donné qu'on voit, c'est le mètre carré est toujours à 12, 13, 14, 15 000. Mais je pense que le fait de mettre tout le monde sur la table et dire qu'il faut investir. Et avoir des logements décents, je dirais, ça apporte. Déjà, dans le logement social, on le fait déjà. Donc, je sais que la RIVP le fait, la ville de Paris le fait. Donc, le bilan carbone pour eux, c'est quand même très, très important.
Ce qui fait peur quand même, c'est que quand on voit le rythme auquel on met en place ce genre de démarche dans un pays comme la France, sachant que la France reste un des pays leaders dans le monde sur ces sujets-là, il y a de quoi s'inquiéter, hein, parce que mine de rien, si en France, on a besoin de 15 ans pour contraindre les gens à faire 5-6 000 euros de travaux dans leur appart, si on n'arrive pas à mettre en place des accompagnements d'État suffisants, etc., qu'est-ce qui se passe en Indonésie, en Inde, comment on va régler
ce problème? Donc on n'est pas montreur d'exemple en France.
On est un peu l'exemple, mais on ne va pas assez vite.
Certains pays quand même donnent l'exemple, sans les contraindre, c'est qu'ils ont une responsabilité citoyenne. Si vous prenez les pays du Nord, par exemple, la Norvège, la Suède...
Ils mettent 15 000 euros pour refaire à neuf leurs travaux, leurs apparts sans...
Je pense qu'ils le font parce qu'ils sont...
ils ont beaucoup d'argent, alors.
Ils sont hyper sensibilisés là-dessus. Donc, c'est quand même... C'est de l'éducation. Et ces gestes, comme on le voit, même pour le tri des déchets, ils étaient quand même innovateurs dans la voiture électrique.
Donc, ça passe aussi par une évolution culturelle.
Une évolution culturelle. C'est pas...
Là, pour le coup, je ne peux pas être d'accord, moi. Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel on fait, on fait un don de 15 000 euros. Moi, j'ai beaucoup d'appartements. Très franchement, si on ne m'y contraint pas, je n'ai même pas l'argent. Je ne sais même pas comment je vais financer déjà aujourd'hui. Et là, il va falloir que l'État se concentre sur cette question. Comment les gens vont financer ces travaux?
Bien sûr.
D'ailleurs que l'effort, bizarrement, il y avait eu quasiment 10 milliards qui avaient été consacrés à MaPrimeRénov dans le plan de relance. C'est une très bonne idée, mais sachez que c'est largement insuffisant.
Bien sûr. Après, il y a peut-être des prêts verts qui vont se mettre en place.
Il y a quand même des prêts.
Il y a plein de choses qui vont se mettre en place.
Mais ça met du temps.
Et n'oublions pas une chose, c'est qu'un prêt, c'est un prêt. C'est-à-dire, on vous prête de l'argent. Finalement, il faut le rembourser. Encore une fois,
qui aujourd'hui paye son appartement comptant, franchement.
Non, bien sûr, mais là, si je vous dis, tiens, vous voyez l'appart que vous avez acheté, finalement, il ne va pas vous coûter ce prix, va vous coûter un peu plus cher que prévu, et ça va sortir de votre poche.
Mais si le locataire paye un tout petit peu plus cher.
Donc il y a quelqu'un qui paye à la fin.
Quelqu'un paye un peu plus cher, légèrement plus cher.
Il faudra faire deux heures de table ronde la prochaine fois.
C'est comme, je parle, moi je le vois un peu pour l'éco-contribution. qui c'est qui la paye? C'est le client final qui la paye. Mmh. Mmh. Vous allez chez Confort, je ne vais pas citer de marque, un vendeur de mobilier, un vendeur, ainsi de suite. Vous avez les contributions. Qui c'est qui la paye? C'est le client. Mmh. Si le client la paye, ça veut dire qu'il est aussi responsable. Ça veut dire que cette partie-là, des co-contributions, il la paye. Si vous dites à quelqu'un, vous allez payer un loyer qui va coûter peut-être 50 ou 60 euros plus cher, et que vous allez payer l'électricité à 15 ou 20 euros, ou 30 euros le mois, au lieu de payer 200 euros, je pense qu'il y a un équilibre à faire.
Sauf que ce ne sera pas ça, les économies. Ce ne sera pas ça, le calcul. Vous allez payer 40 au lieu de 60, et vous allez réduire... Ça, je vous dis, moi, sans contrainte, je vois pas. Et finalement, moi, me dire qu'à la fin, celui qui paye, c'est le locataire, je trouve pas ça bien. Et me dire que celui qui paye, c'est le consommateur qui va payer son mobilier plus cher, je trouve pas ça bien. Je trouve pas que ce soit, je trouve pas que ce soit la solution de dire, regardez, moi, je suis une entreprise, je suis génial, je fais des efforts pour la planète.
Oui.
Par contre, j'ai oublié de vous préciser que je vais augmenter tous mes prix derrière. Je trouve qu'il y a quelque chose de très malsain, bon. et c'est tout le problème d'ailleurs.
En tout cas, messieurs, moi ça me donne envie de vous réinviter, hein, parce que c'est génial ce qui se passe. Hein, Philippe, là il est bouche bée, Philippe, il dit plus rien. On vous a accaparé votre table ronde.
Ah, c'est très bien, nos partenaires.
Bon, alors
si
vous voulez bien, Alexandre et Samir, j'ai peut-être donné le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde. Ouais. Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, ce que vous retenez de cet échange qui a été riche quand même. Hein.
Oui, alors. Des tendances de fond sur le business de l'immobilier locatif, sur les investissements à mettre de part et d'autre, j'allais dire. Je pense que on a vu des contraintes forcément nécessaires, alors plus ou moins rapides, plus ou moins bien échelonnées dans le temps, on peut en discuter. C'est une co-construction, même si ça part peut-être de la contrainte, il y a un moment aussi, il faudra que toutes les parties prenantes d'un projet mettent la main à la poche, d'une manière ou d'une autre.
C'est ça.
Qu'on soit industriel comme nous, qu'on soit particulier dans une entreprise, investisseur, le banquier.
Évidemment, après la COVID, ça a été une vraie évolution et révolution à tous les niveaux.
Exactement.
C'est ce qu'on va retenir de cette table ronde, si vous le voulez bien. Merci à vous trois d'avoir été avec nous.
Merci.
Philippe Lebouris, directeur commercial, services et modernisation pour TK Elevator France. Merci beaucoup. Samir Abès, responsable adjoint département projet immobilier pour la Caisse d'épargne Île-de-France. Bonne banque, la Caisse d'épargne.
Super banque.
Super. Alexandre Fitoussi.
Merci.
CEO de Beanstock. Merci à vous trois d'avoir participé à cette table ronde qui a été très riche et très intéressante. Merci à vous.
Merci.
Et bonjour.
Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, du 8 au 10 décembre 2021 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec TK Elevator, Cité Verte Europe et bien ici sur Radio Immo.